Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes est-il une ubérisation de la contestation, plateforme d'échange et lieu de diffusion? Comment les réseaux sociaux ont-ils rendu la colère virale? On en parlera avec notre invité à partir de 12h55, Fabrice Eppelboin, professeur à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Mais d'abord, mardi, cinéma, avec notre premier invité, le distributeur Jean Labadie, fondateur du Pacte. L'un des joyaux de son catalogue sort en salle demain, le film Une affaire de famille du japonais Hirokazu Koreeda, palme d'or au dernier festival de Cannes, un drame familial sur le Japon d'aujourd'hui. Ensemble, nous ferons donc un coup de projecteur sur ce film et sur le métier de distributeur, le sien, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Jean Labadie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Mal mise en scène, mal éclairé, mal dirigé, post-scriptum, il devrait aussi changer de maquilleur. L'avis d'un professionnel du cinéma sur l'intervention du président hier à la télévision. Il suffit de suivre votre fil Twitter très nourri pour connaître le vôtre. Vous ne vivez pas dans une bulle entre tapis rouge et salles obscures. Ce qui se passe en ce moment dans le pays, ça vous intéresse aussi?
Ben, c'est difficile de ne pas être lié à l'actualité, ne serait-ce que comme citoyen, et ensuite comme distributeur, parce que les choix que nous faisons, sont des choix qui sont quand même aussi liés à une vision de la société, et donc évidemment tout ce qui touche le mouvement, par exemple des Gilets jaunes ou d'autres, nous concerne énormément.
En quoi ?
Bah, simplement, nous sommes des distributeurs engagés. Engagés, ça ne veut pas dire que nous sommes politiquement avec des choix donnés, mais nous avons, je crois, une ligne de conduite depuis toujours, qui est une ligne liée à l'humanisme. Et dans ce cadre, c'est pour ça qu'on distribue, entre autres, Ken Loach, Koreeda, que nous avons sorti chez nous de Lucas Bellevaux, que nous distribuons aussi des documentaires sur l'écologie, et que, en fait, il y a une ligne de conduite qui est quand même liée à une idée que nous nous faisons du monde.
D'autant que votre secteur à vous, Jean Labadie, n'est pas non plus épargné par ce qu'on appelle aujourd'hui la disruption. Depuis vos débuts en 86, le paysage a pas mal évolué et en mode accéléré ces dernières années. Parmi les secousses, l'arrivée de nouveaux acteurs comme Netflix, les salles un peu plus boudées qu'auparavant, le DVD qui s'incline devant l'immatériel, le piratage des films, la chronologie des médias bousculée, vous arrivez parfois à sortir la tête de l'eau et à évaluer dans quel moment vous vivez, nous vivons, vous dans le sens du secteur du cinéma.
C'est difficile parce que, en fait, nous, on travaille, le distributeur est tout d'abord un investisseur, c'est-à-dire que le distributeur, il part dès le départ d'un film, quasiment dès que le producteur a décidé de l'idée de le faire, il a besoin d'un distributeur, ne serait-ce que pour aller chercher tous les autres investisseurs et surtout savoir comment ce film va être commercialisé et quelle est sa capacité à toucher un public. Et donc, nous partons souvent 1 an à 2 ans avant que le film sorte. Et les changements qui se font quand ils sont extrêmement brutaux, ce qui est le cas ces dernières années, évidemment, nous tombent un tout petit peu sur la gueule.
Pardon. Donc il faut anticiper, tant que faire se peut.
Je crois qu'il faut surtout garder l'idée que le spectateur est extrêmement intelligent, qu'il a beaucoup de goût et être enthousiaste sur ce qu'on fait.
Ça, c'est la réponse polie, on va dire, d'une certaine manière, Jean Labadie. Mais quand même, comment vous arrivez à vous adapter à tout ce qui est en train de changer? Parce que vous êtes plus qu'un maillon de la chaîne, vous êtes des maillons de cette chaîne-là, chaîne particulièrement secouée en ce moment.
Oui, le distributeur est sûrement celui qui, dans la chaîne de la profession, prend le plus de risques. Ne serait-ce que par sa taille, par les fonds propres qu'il a, par le côté extrêmement aléatoire de la sortie en salle. On a sorti un film le 18 avril cette année et on est tombé sur la semaine la plus chaude depuis 1949. Et donc évidemment, cette semaine qui suivait toute une période de mauvais temps a donné une fréquentation cinématographique extrêmement faible. Donc effectivement, on a des aléas toujours en permanence qui rendent notre métier encore plus risqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le distributeur a un souci, surtout sur le cinéma français, c'est que nous investissons avec les droits salles et vidéos, et que la piraterie a tué totalement le DVD et empêche la VOD de se développer, et ce sous le regard amusé des pouvoirs publics, puisque le CNC...
Amusé ou impuissant ?
Non, pas impuissant. Ils n'ont jamais voulu vraiment prendre de décision, et ça continue. Ça fait maintenant 7 ans que la liberté totale de voler les ayants droit est possible sur Internet. C'est une décision politique. Nos pays voisins, par exemple l'Allemagne, a une politique totalement différente, ce qui fait qu'il y a un équilibre économique plus facile à réaliser qu'en France.
Un mot de cette chronologie des médias. Un accord a enfin été trouvé. Canal+ et Orange ont fini par s'engager. Chaque fenêtre de diffusion, peu ou prou, va être avancée un peu. Est-ce que cet accord vous satisfait ?
Je pense que la difficulté, c'est que comparé de ce qui se passe sur Canal ou sur OCS, c'est-à-dire une relative baisse des abonnements parce que, entre autres, le cinéma arrive épuisé, est-ce que le fait d'avancer de 2 mois, ça changera franchement les choses? J'en suis pas totalement certain, parce que ça passait par un a priori dans tous les accords, c'est que la piraterie soit condamnée et qu'il y ait une lutte effective contre le fait que 12 millions de personnes en France prennent et consomment les films sans les payer.
Et ça, vous n'avez pas eu gain de cause ?
Pour l'instant, ça fait partie des choses qui devraient sortir de la loi sur l'audiovisuel, mais très honnêtement, je suis pas certain que ce sera avant la fin de l'année 2019 et que ce sera exactement ce qu'on espère.
Sur le fil des réseaux, toujours, vous avez posté avec humour ce week-end ce message: content d'avoir une affiche, celle du film de Kore-eda, en haut des Champs-Élysées pour la Palme d'Or. Merci beaucoup aux caméramans de faire le point un peu mieux pour la lisibilité. Il faut raconter qu'effectivement, place de l'Étoile, il y avait ce kiosque avec l'affiche du film du japonais Kore-eda qui sort en salle demain, que vous distribuez. L'affiche donc de ce film... C'est le choix du distributeur. C'est une question aussi qui peut se poser sur le titre. On dit une affaire de famille en français. Au Japon, c'était plutôt famille de voleurs à l'étalage, le titre qui avait été gardé, Mambiki Kazoku. Et l'équivalent en anglais du titre, c'était Shoplifters, qui signifie voleur à l'étalage. Qui a choisi le titre français? Qui a choisi de mettre l'accent sur la famille et sur le drame familial?
C'est nous, parce que, en fait, voleur à l'étalage, c'est un titre difficilement mémorisable. Ensuite, je pense que c'est Kore-eda est quelqu'un qui, depuis très longtemps, parle de la famille, d'une famille qui est évidemment japonaise, mais qui du coup devient totalement universelle. Et je pense que les rapports dont il parle dans ses films est quelque chose qui peut toucher le public, à condition qu'il soit capable de reconnaître et d'apprendre facilement et de mémoriser le titre du film. Donc Une affaire de famille nous paraissait beaucoup plus proche de ce que ça raconte que Voleur à l'étalage, qui est une expression un peu désuète.
Et qui indique une des thématiques du film, l'idée que certains des personnages doivent commettre quelques larcins, voler pour survivre aussi. Vous avez donc choisi de mettre l'accent sur cette famille composée, recomposée, qui se présente à l'écran dans le film de Kore-eda. Le choix de le distribuer, ce film-ci, est-ce qu'il s'est fait pour vous, Jean Labadie, sur le nom du réalisateur, par fidélité, sachant que vous le distribuez déjà depuis 2011, ou sur son scénario que vous avez lu? Ou les scénarios, vous les lisez de toute façon toujours avant de vous engager?
Il est très rare que nous achetions des films finis. C'est le cas, par exemple, Yomedine, c'est un film qu'on a vu, qui était terminé, et je pense qu'on n'aurait pas pu le découvrir si on avait reçu le scénario, parce que c'est assez compliqué de faire le pari à l'époque sur un film qui raconte l'histoire d'un lépreux et d'un enfant nubien qui traverse l'Égypte. Mais sinon, oui, dans la plupart des cas, nous décidons sur scénario, ne serait-ce que parce que s'il n'y a pas de distributeur pour acheter préacheter ou coproduire les films ne se font pas. Donc il faut bien qu'à un moment donné, nous puissions investir, et pour investir, voilà, le scénario est la base. Ensuite, c'est vrai que Kore-eda, quand nous avons distribué I Wish, qui était le premier film que nous avons distribué, on avait vu quand même tous les films précédents, et donc on savait quel était le talent de ce metteur en scène, et c'est vrai qu'ensuite, on suit par fidélité, parce qu'il y a une réussite spectaculaire de tous les films, les uns derrière les autres, et donc, voilà, on suit comme ça, de la même manière, Jim Jarmusch, Nanni Moretti, Ken Loach, Arnaud Desplechin, parce que pour nous, ce sont d'immenses metteurs en scène, et c'est d'ailleurs ce qui compte pour nous le plus, c'est-à-dire plus la mise en scène, que peut-être le cast ou d'autres éléments du film.
Alors justement, quand un Kore-eda arrive dans votre catalogue, comment ça se passe? Vous êtes allé le débaucher chez les confrères? C'est des réalisateurs que vous suivez de près? C'est eux qui viennent vers vous?
Oh, ben, les films sont sur le marché, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a, là, en l'occurrence, c'était Walbunch, société de vente internationale tout à fait et extraordinaire, qui nous a proposé le film, et donc il a sûrement proposé le premier à d'autres distributeurs. Ensuite, à partir du moment où la relation se fait entre nous et Kore-eda, et avec ses producteurs japonais, c'est un suivi simplement de travail, et sur lequel ils ont quand même une satisfaction, puisque la France est de très 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 loin le pays qui fonctionne le mieux sur les films de Kore-eda. Et donc, dans cette continuité, d'ailleurs, nous sommes distributeurs et coproducteurs du nouveau film La Vérité qui se tourne en France.
La Vérité avec Juliette Binoche et Catherine Deneuve qui se tourne en ce moment même en région parisienne. Alors là encore, vous avez choisi de distribuer ce film. Ces scénarios, il le dit souvent d'ailleurs, Kore-eda, il les réécrit pendant le tournage, pendant qu'il tourne et qu'il monte presque en même temps. Sur ce film-là, sur une affaire de famille qui sort en salle demain, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un peu le troisième épisode d'une trilogie autour de l'enfance, de la famille, qu'il aurait commencé avec Nobody's Knows, que vous avez aussi distribué, Tel Père, Tel Fils? Est-ce qu'il vient boucler la boucle avec ce film Kore-eda pour vous, Jean Labbadie?
Je ne crois pas que ce soit volontairement une trilogie. Je crois surtout que Kore-eda, depuis qu'il fait des films, parle quand même de la famille et des relations qui peuvent exister, qui sont au-delà justement des liens du sang, que ce soit dans Third Murder ou dans tous ses films précédents. C'est une vision de la famille qui est assez anarchiste, en tout cas différente de la famille telle qu'elle est traditionnellement comprise. Et le côté trilogie, quand c'est pas annoncé, je crois que c'est plutôt peut-être le troisième film qui met un peu plus l'accent, après Tel Père, Telle Fille et Notre Petite Sœur, sur la famille. Mais je crois que ça traverse absolument toute son œuvre.
Comment vous définiriez ce cinéaste? Quelle est vraiment sa patte à lui? Est-ce que vous diriez qu'avant d'être un styliste, d'avoir une esthétique vraiment propre, facilement définissable, c'est surtout un regard sur la nature humaine, Kore-eda, pour vous?
Mais je pense que c'est un cinéma qui est discrètement politique et fondamentalement humaniste. Et je lui dis qu'il est plus proche de Ken Loach que de Ozu, mais je pense que c'est quelque chose qui est la résultante de ces deux cinéastes.
Famille, solidarité, le Japon des marges, au micro de la grande table, le cinéaste revenait sur ces thèmes qui lui sont chers. C'était en mai dernier à Cannes, où le film avait donc été présenté en sélection officielle et d'où il est reparti avec une palme d'or. On réécoute ses mots. Cinquième sélection officielle à Cannes depuis distance. Vous êtes un habitué du festival, comment on dit, monsieur Kore-eda, bonjour.
Bonjour.
Une affaire de famille, ce titre évoque à la fois le business familial, les petites combines développées par chacun pour survivre avec peu ou avec rien, mais c'est un titre qui évoque aussi le noyau familial. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans nos vies, de nos vies au sein d'une famille, Kore-eda?
でもそれはどうしてって言われると、それを考えるために撮ってるとしか僕には言いようがないんだけども。
C'est justement pour répondre à cette question que je réalise des films, je crois. En tout cas, mes films ne cessent de s'interroger sur cette question que vous me posez. Qu'est-ce que la famille ? Pour moi, c'est difficile d'y répondre. En tout cas, je sais que en tant qu'individu, j'ai évolué au cours de ma vie. J'ai traversé un certain nombre d'étapes, d'épreuves. J'ai perdu mes parents. Je n'étais donc à ce moment-là l'enfant de personne. Je suis à mon tour devenu père. J'ai eu un enfant. La femme qui était à mes côtés est devenue mère à son tour. Et je crois que c'est cette succession de pertes qui engendre quelque part. Perdre un proche nous fait peut-être nous accéder à un nouveau statut au sein de cette famille. Et pour moi, la famille, c'est quelque part ce contenant, on va dire, qui se transmet de génération en génération et qui fait qu'on passe d'un statut à un autre. Je crois que la famille, c'est le lieu de ça qui permet ça, en tout cas.
Vous nous montrez, Monsieur Koreeda, un Japon à la marge ou de la marge. Une société de la débrouille où chacun cherche à trouver aussi sa place en n'ayant pas beaucoup. Est-ce que pour vous, la solidarité qui se manifeste dans cette famille que vous recomposez à l'écran, dans une affaire de famille, est-ce que pour vous, la solidarité reste une valeur centrale de nos sociétés à laquelle trop souvent on tourne le dos ?
Je pense effectivement que la solidarité est une valeur fondamentale et je crois que ce film, à travers ces personnages, nous interroge un peu, nous aussi, sur notre perception des choses et de cette capacité qu'on peut ou non avoir à s'aider. C'est une famille, en effet, qui est constituée de personnages, d'individus qui ont tous plus ou moins commis un crime ou un délit et pour autant, ils réussissent, eux, à tisser entre eux un lien, à instaurer une générosité, une chaleur. Et je crois que pour le spectateur, ça engendre un sentiment un peu contradictoire, puisque à la fois, ils réussissent à obtenir, à mettre en place quelque chose que nous, on a peut-être tendance à perdre, et en même temps, un crime reste un crime, et pour ça, ils mériteraient d'être jugés. Donc, je pense que c'est ce regard un peu double, un peu duel, qui m'intéressait et que j'avais envie de susciter.
Oui, parce que en même temps, c'est une famille où ils sont tous un peu hors la loi. Ils commettent tous des petits larcins ou ont commis des délits ou des crimes plus importants avant. Ça, on le découvre au fur et à mesure. Et en même temps, ils vivent tous avec des vrais principes, des règles. C'est aussi ça qui les lie. Comme pour Nobody Knows, vous vous inspirez, je crois, d'une histoire vraie pour ce film, une affaire de famille. Cette situation des familles qui touchent la pension de retraite de leurs parents qui étaient morts depuis un certain temps. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire, dans ce fait divers ?
Il y a effectivement eu un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique au Japon d'enfants qui continuent à profiter de la pension de retraite de leurs parents alors même qu'ils étaient morts en effet depuis un certain temps. Il y a eu une affaire en particulier qui avait été assez médiatisée et dans laquelle le coupable, on va dire, de cette arnaque, on va dire, à la retraite avait dit qu'elle avait laissé sa mère allongée dans son lit, dans la chambre d'à côté pendant un certain temps, et que quand l'affaire avait été révélée au grand jour, la première chose qu'elle avait dit, c'était « mais j'avais pas envie de croire qu'elle était morte ». Et je crois que la première réaction, la réaction spontanée qu'on peut avoir, c'est « mais c'est pas possible, un mensonge pareil ». Évidemment que l'intention, c'était de continuer à gagner de l'argent et non pas le regret qu'on peut avoir de perdre sa mère. Et en même temps, je comprenais, je crois, quelque part, ou en tout cas j'ai eu envie de comprendre et j'ai envie de creuser derrière cette réflexion, cette émotion que la personne avait exprimée en disant que sa mère était partie et qu'elle n'avait pas envie de l'admettre. Et c'est, je crois, le point de départ, un des points d'entrée dans le film qui m'a donné envie de réaliser ce film.
Derrière la douceur apparente de votre film, Koreeda, le propos que vous tenez dans ce film est assez dur à l'encontre de la société japonaise, à l'encontre de nos sociétés. Est-ce que le cinéma que vous faites, c'est-à-dire un cinéma qui nous ouvre les yeux,
avec douceur, avec délicatesse et sans nous brusquer, sans nous brutaliser, correspond à ce cinéma que vous aimez.
そうですね。そう届いてるのであればうまくいったんだと思いますけれども、それはもうでも今回は撮影の近藤流と。
Effectivement, c'est une approche, un procédé que j'apprécie. En tout cas, j'aime bien cette façon de faire. Et en même temps, pour ce film-ci, en l'occurrence, j'ai été secondée par un chef opérateur qui s'appelle Monsieur Kondo. Et c'est lui qui m'a fait cette proposition de dire, voilà, ce film est un film réaliste, un film qui parle du réel. Et en même temps, j'aimerais pouvoir y insuffler une note de poésie. J'aimerais donner une dimension non pas fantastique, mais en tout cas, qui donne une couleur, une tonalité supplémentaire au réel. On a travaillé à la fois le cadre, les lumières, les couleurs, le décor en fonction de sa proposition. Donc, il a joué un rôle déterminant dans l'esthétique du film et dans l'approche du film.
Une affaire de famille est un film sur la famille. Et en même temps, on a le sentiment que vous appelez à redéfinir ce qu'est la famille, y compris peut-être dans le cinéma. Quelle est vous, monsieur Corrida, votre famille de cinéma?
それはもう一方的に自分がファンの監督の名前を並べることになってしまいますけれども、特に今回のような作品の場合だと、
je vais vous faire une réponse qui sera ni plus ni moins la liste des réalisateurs dont je suis fan à titre personnel, mais pour ce film-ci et puis plus largement, parce que je suis très admiratif de son travail, je citerai Ken Loach en premier lieu, et puis en second lieu le réalisateur taïwanais Hu Hsiao-hsien, pour qui j'ai aussi une admiration sans bornes, et même si on n'a pas de lien de parenté, de lien de sang, je considère vraiment appartenir à sa famille de cinéma.
Merci beaucoup, M. Corrida.
Merci beaucoup.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Hirokazu Corrida, rencontré à Cannes en mai dernier à propos de son film Une affaire de famille, en salle demain en France, que vous distribuez Jean Labadie, créateur de Back Film, puis Mars Film et maintenant du Pacte, enfin depuis 10 ans, des sociétés écrans pour une cinéphilie sans limite, des classiques Ford, Eisenstein, Buñuel en tête aux nouveautés, des livres sur le cinéma, vous consommez tout et avec gourmandise. C'est cette cinéphilie et votre goût qui vous guide dans vos choix plus que les tableaux prévisionnels, colonnes à mettre au crédit, à mettre au contraire au débit des réalisateurs pour savoir si un film va marcher ou pas.
Moi, je ne viens pas du milieu du cinéma familialement. Donc, pour moi, c'était au départ la cinéphilie qui m'a fait rentrer dans la distribution, sans d'ailleurs savoir très exactement ce que c'était. Et c'est vrai que je suis rentré dans un univers absolument fantastique. Je me rappelle la première fois où je suis arrivé à Cannes et où avec une accréditation professionnelle, je pouvais rentrer dans n'importe quelle projection. C'était hallucinant et formidable. Donc c'est vrai que la cinéphilie, ça a fait une grande partie de ma formation. Le militantisme aussi, pendant une certaine période, une période assez longue et qui aussi a toujours marqué mes choix ensuite comme distributeur. Et donc oui, bien sûr, comme tout le monde, on fait des tableaux Excel où on marque combien ça coûte et combien ça peut rapporter, mais c'est pas ce qui nous motive. Et on s'est aperçu que finalement, mon épouse et moi, qui dirige la société avec moi, que à chaque fois qu'on partait du principe, là, sur ce coup-là, on peut pas perdre parce qu'il n'y a pas de risque, on a toujours perdu. À chaque fois qu'on a pas fait un film parce qu'on pensait ça, nous on adorerait, mais est-ce que les gens adoreront ? Finalement, on a fait des erreurs. Donc on essaye de suivre systématiquement qu'est-ce qui nous plaît, combien on aimerait montrer ce film à des gens qu'on aime, et à des gens qu'on connaît, et à des gens qu'on connaît pas, et c'est quand même ça qui nous motive. C'est comment on peut diffuser des coups de cœur, et à chaque fois qu'on le fait, finalement, et on le voit sur la fidélité, je veux dire, tous les auteurs avec qui on travaille ont eu des hauts commerciaux et des bas commerciaux et des échecs et des fois extrêmement coûteux, mais on a toujours suivi parce que je pense que quand les gens sont sincères et qu'ils ont du talent, ils se rétablissent extrêmement rapidement.
et vous produisez et distribuez surtout des beaux noms et des très beaux films, environ 20 films par an, dont une grande partie de films d'auteurs français. Vous citiez tout à l'heure Arnaud Desplechin, Mathieu Amalric, Christophe Honoré, Thomas Lilti, mais aussi des metteurs en scène internationaux comme Nanni Moretti, Jim Jarmusch, Ken Loach, Christiane Mungiu, Matteo Garonne, Abderrahmane Sissako. Ça en fait du monde et du beau monde. Alors quel pacte vous nouez avec vos réalisateurs sur un film? Vous nous le rappeliez, le distributeur est là en amont, il investit dans le film aux côtés du producteur et en échange acquiert les droits de distribution. Et puis en aval, il assure la promotion du film. Une fois qu'on a dit ça, vous avez fait vos armes aux côtés de Marine Kermins, le patron de MK2, sa définition du métier.
Ce n'est surtout pas un co-créateur, c'est pas non plus un accompagnateur, c'est sans doute le premier spectateur. C'est en fait pour moi, j'ai toujours essayé d'être un éditeur et un marchand de films. J'entends par là, dans le mot éditer, c'est aider à mettre au monde. En fait, je suis un accoucheur et un pédiatre. J'ai toujours considéré que j'étais accoucheur et pédiatre. Accoucheur, c'est être avant le film dans un rôle qui est très important, qui est celui d'avoir le meilleur scénario possible. Et ce moment-là est vraiment très important. C'est ensuite trouver l'argent et c'est ensuite, pendant le tournage, faire en sorte que le film se passe dans le moins de friction, le moins de conflits possible.
Alors, accoucheur et pédiatre, vous dites pareil, Jean Labbadie, c'est ça le pacte que vous nouez avec vos réalisateurs, celui de bien vous occuper du bébé?
Oui, mais on est un peu co-géniteur aussi, parce que une grande partie des films que nous faisons ne se ferait pas si nous n'étions pas là dès le départ au moment du financement. D'ailleurs, bon, c'est marrant que vous passiez Marine Kermins, puisque en fait, moi, j'ai démarré chez Marine en 1978, fin 78. Donc, j'ai appris une grande partie, la plus grande partie de mon métier chez lui.
C'est-à-dire il y a 40 ans, exactement. Une palme d'or méritée pour Kore-eda cette année à Cannes, mais une édition 2018 marquée par l'absence de quelques grands noms du cinéma, habitués plutôt de ce festival, comme Audiard ou Xavier Dolan, qui ont préféré décaler la présentation de leur film, bouder un peu Cannes pour Venise ou Toronto, pour se rapprocher, dit-on, des Oscars. C'est un choix stratégique que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas fait, en tout cas avec le Kore-eda. Pourquoi ?
Non, d'abord parce que le Festival de Cannes, pour moi, est le plus grand festival du monde et qu'il le reste. C'est un festival qui allie à la fois la découverte, puisqu'il y a un nombre d'auteurs extrêmement importants qui sont nés à Cannes, y compris des premiers films, avec des chocs visuels extraordinaires. Et ensuite, c'est un festival justement qui n'est pas tourné uniquement vers un événement de l'année qui sont les Oscars, et qui finalement sont assez limités en termes de découverte et d'ouverture sur le monde. Donc je préfère le Festival de Cannes de loin. Le Festival de Venise est sûrement intéressant, a été intéressant, mais c'est devenu aujourd'hui le lieu des majors américaines et de Netflix, et je ne pense pas que ce soit pour le grand bien du cinéma en général.
Et à ce propos et à ce sujet, on terminera une fois encore par l'un de vos messages postés sur Twitter au sujet du film Roma d'Alfonso Cuarón, qui sortira sur petit écran vendredi, produit et distribué par Netflix. Une splendeur, disent les critiques, alors un regret de ne pas le voir sortir en salle. Vous avez écrit « Oui, c'est dommage, mais sur le portable, ce sera pas mal non plus, non ?»
Après, il faut pas oublier que Netflix n'a pas produit le film, ils l'ont juste acheté. C'est une énorme différence.
Merci beaucoup à vous, Jean Labbadie. Le film « Une affaire de famille » de Kore-eda sort en salle demain en France. Allez-y.
Merci.